sur Radio Safriol 94.2, l'émission qui compte. Avec Sophie au micro, Pierre à la technique. Le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h. Chères auditrices, chers auditeurs de Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Si l'on en croit le calendrier, nous sommes au printemps. Mais si l'on en croit les températures, nous serions plutôt en hiver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des saisons. Dans les régions du Grand Nord, ou dans l'ancienne tradition celtique, il y avait deux saisons, la saison claire et la saison sombre. Dans nos régions tempérées, on parle plutôt de quatre saisons. Quatre saisons qui représentent les quatre phases de tout cycle. Le printemps, c'est la saison de l'éveil, du commencement, l'enfance aussi, le moment où le soleil se lève et le démarrage d'une activité sur des bases optimistes. L'été serait la jeunesse, avec le soleil qui arrive à son zénith et toutes les forces sont rassemblées, c'est le moment de l'action. L'automne, c'est le temps des moissons, mais aussi parfois celui des regrets. Le soleil commence à baisser sur l'horizon, c'est le moment de récolter les fruits, le temps aussi parfois de regretter la beauté de l'été passé. Et puis l'hiver, le temps de repos qui précède la période d'activité, ça peut être la mort, mais est-ce que la mort est réellement une fin ? Et c'est la terre qui se prépare en vue d'un nouveau printemps. Alors les quatre saisons ont inspiré bon nombre d'œuvres artistiques, que ce soit les célèbres concertos de Vivaldi, quatre saisons qui font partie d'un recueil de 12. Elles sont aussi inspirées les enluminures du Moyen-Âge, il y a les très riches du duc de Berry qui sont inspirées des mois, et puis des enluminures peut-être moins connues qui s'appellent le livre des saisons. On a comme attribut, on donne au printemps des arbrisseaux bourgeonnants et on le représente sous la forme, on le représente sous les formes d'un enfant qui tient un chevreau dans sa main et qui porte une couronne de fleurs sur la tête. L'été, lui, porte une couronne d'épis de blé, il est entouré de champs dorés et tient une faucille parfois dans sa main. L'automne, il a comme attribut les raisins, donc ce sera une couronne de grappes, de vignes. Et puis à l'hiver, eh bien, des arbrisseaux noirs et de la neige qui environnent un enfant vêtu de blanc. Mais, sans plus attendre, voici notre première histoire qui vient de la mythologie grecque. C'est l'histoire de Déméter et de Perséphone. En ce temps-là, la plupart des dieux et des déesses vivaient sur la plus haute montagne, l'Olympe. Le dieu des dieux, Zeus, avait libéré ses frères et sœurs du ventre, les prisonniers du ventre de leur père, Cronos, et il était devenu le chef des dieux. Zeus est marié à Héra, mais il est toujours assoiffé de conquête et il ne reste pas insensible à la beauté de Déméter. Déméter qui a de longs cheveux blonds, une peau dorée et des yeux brillants. Et Zeus la poursuit de ses activités jusqu'à obtenir satisfaction. De leur union naît une fille, Corée. Déméter est mécontente d'avoir été contrainte par Zeus, alors elle décide de quitter l'Olympe et d'aller vivre sur la terre avec sa fille bien-aimée. Là, elle voit les hommes qui sont dans une misère noire. Ils n'ont très peu de nourriture, ils sont maigres, malheureux, et Déméter va rendre la terre fertile, les récoltes de céréales abondantes, elle fait crouler les arbres sous les fruits et les vignes aussi, et elle donne aux hommes un bétail vigoureux, elle enseigne les bons gestes de l'agriculture pour faire pousser les grains dans les champs et pour cultiver les fruits. La Grèce, pour remercier la déesse de tout ce qu'elle lui a donné, va lui ériger des temples un peu partout dans le pays. Et les hommes, maintenant devenus prospères, ils offrent des sacrifices aux dieux, et les dieux, ils en sont satisfaits, et même bientôt, ils ne peuvent plus se passer de tous ces sacrifices. Sur Terre, la belle Corée grandit aux côtés de sa mère et elles aiment se promener toutes les deux. La mère enseigne à la fille le nom des plantes et des fleurs. Elle joue avec elle à courir dans les prés et puis elle se repose à l'ombre des oliviers. La petite fille grandit et elle devient une jeune fille. Une jeune fille à longue chevelure sombre. Et elle est très amie avec les nymphes des lacs et des rivières. Une jeune fille dont la beauté va être remarquée par Hadès, le souverain des enfers. C'est la période des moissons. Déméter est occupée à surveiller que les faucilles sont bien affûtées, que tous les épis sont cueillis, rassemblés sur les charrettes avant la nuit. Et Corée, elle se promène librement avec ses amis, les Océanides. Et puis les jeunes filles cueillent des fleurs et Corée aperçoit, loin, un peu plus loin du groupe, à l'orée du bois, des narcisses. Le narcisse est sa fleur préférée. Alors elle quitte ses amis, elle va encore un peu plus loin pour cueillir les fleurs, et puis là, isolée, elle voit un narcisse d'une taille extraordinaire et qui répand un parfum d'une suavité telle que la jeune fille est comme attirée par cette fleur. Elle ne voit plus ses amis, elle s'avance dans le bois jusqu'à la fleur magnifique. Elle tend la main pour la cueillir, et au moment où elle saisit la tige, un grondement terrible retentit, le sol s'ouvre sous ses pas, une faille s'agrandit, le bruit a effrayé les nymphes qui s'enfuient tout en courant. Mais Corée, elle, est comme paralysée, un froid glacial se répand dans tout son corps, des brumes montent de la faille, et puis le roulement d'un char lancé à toute vitesse. Hadès, le dieu des enfers, jaillit debout sur son char, torse nu, son regard plus noir que sa barbe et sa chevelure. D'une main ferme, il attrape les rênes des quatre chevaux noirs, et de l'autre, il saisit la jeune fille par la taille et l'attire contre lui, et il l'emporte dans son domaine, les profondeurs de la terre. Corée crie, mais Zeus, qui est le complice de son frère Hadès, bâillonne le vent pour qu'il ne porte pas la plainte de la jeune fille jusqu'aux oreilles de sa mère. Corée laisse tomber ses fleurs et le dieu des enfers l'emporte. Un peu plus tard, Déméter cherche sa fille, elle l'appelle, mais la jeune fille ne répond pas. Elle va dans la prairie et là, tout est calme de nouveau, les herbes dansent sous un vent léger. La mère, éplorée, interroge les amis habituels de Corée, mais elles expliquent qu'il y a eu un grondement terrible, que ça les a effrayées, elles se sont enfuies, elles ne savent pas, elles croyaient que Corée était retournée auprès de sa mère. Pendant 9 jours et 9 nuits, Déméter va chercher sa fille. Sans manger, sans boire, sans prendre de repos, elle l'appelle par toute la terre. Personne ne sait ce qu'elle est devenue. Et le 10e jour, enfin, la 10e nuit plutôt, elle rencontre la vieille Hécate, la déesse des croisements et des chemins, accompagnée de ses 3 chiens noirs. Les chiens grondent et montrent les dents sur quiconque, mais Déméter a leur faveur et il s'incline devant elle, se couche à ses pieds. C'est à Dieu qui t'a volé ta fille, dit Hécate. J'étais dans ma grotte et je l'ai bien entendu crier, mais j'ai rien vu par contre. Le soleil, lui, qui parcourt le ciel du haut de son char, le soleil pourra te dire qui t'a enlevé ta fille. Le froid glace le cœur de Déméter. Un dieu, mais quel dieu a pu faire disparaître Corée? Elle pressent que c'est le dieu des enfers, mais son cœur n'est pas sûr. Aussi, dès que l'aurore, aux doigts de rose, parcourt le ciel, dès que Hélios s'apprête à s'élancer sur son char aux chevaux blancs, Déméter est là, elle arrête le char du soleil. Hélios fronce les sourcils, il dit, mais Déméter, je vais être en retard, pourquoi arrêtes-tu mon char? Déméter lui dit, toi le soleil, toi qui vois tout, toi qui parcours la terre, dis-moi où est ma fille? Ta fille n'est plus sur la terre, je ne l'ai vue nulle part, c'est sûrement Hadès, le dieu des profondeurs, qui l'a enlevée, et il veut en faire la reine des enfers, c'est un beau parti, crois-moi. Déméter ne peut rien contre Hadès. Elle laisse le char du soleil démarrer sa course. Elle s'enferme dans son chagrin. Elle détache ses cheveux et elle pleure sa fille. Quand Déméter pleure, c'est la terre tout entière qui pleure. Les cultures se dessèchent, les arbres ne portent plus de fruits, les herbes deviennent jaunes. Et les hommes ont beau supplier la déesse, elle ne s'occupe plus d'eux. Les couleurs se ternissent, tout meurt. Et du haut de l'Olympe, Zeus voit ça et est bien embêté, très inquiet. Et si les hommes meurent de faim, mais alors qui va offrir aux dieux les offrandes dont ils ne peuvent plus se passer? Zeus appelle Iris, la déesse de l'arc-en-ciel, et lui demande d'aller trouver Déméter et de lui enjoindre de redonner vie à la terre. Mais le cœur de la déesse reste inflexible. Je garderai les graines cachées et la végétation desséchée tant que ma fille ne me sera pas rendue. Zeus cède et il envoie Hermès, le messager des dieux, avec ses sandales ailées, demander à son frère de rendre la jeune fille qu'il a enlevée. Corée, qui entre-temps a changé de nom, Hadès l'a rebaptisée Perséphone. Et en a fait la reine des enfers. Le maître des enfers, Hadès, écoute le messager de Zeus. On ne désobéit pas au dieu des dieux. Sans trop se faire prier, il accorde la requête du dieu. Perséphone remontera sur la terre, mais avant, il veut lui apprendre lui-même la nouvelle. Hadès conduit Perséphone jusqu'au jardin des grenadiers, l'endroit le plus fleuri des enfers. Là, les grenades sont mûres à point sur les branches. Il apprend à Corée, Perséphone, qu'elle va retourner auprès de sa mère. La jeune fille est toute heureuse à l'idée de revoir la lumière du soleil, même si elle a appris peut-être à aimer, en tout cas à apprécier le beau ténébreux qui est à ses côtés. Hadès cueille une grenade et l'ouvre et il presse quelques pépins juteux sur les lèvres de Perséphone. Le jus coule dans la gorge de la jeune fille. C'est si bon, si frais, ces pépins de grenade. Puis Hadès appelle les harpies, ces oiseaux à tête de fillette et aux griffes d'oiseaux de proie, pour qu'elles ramènent Perséphone auprès de sa mère sur la terre. Déméter attend sa fille dans la plaine d'Éleusis. Corée est là. Elle caresse son visage, ses cheveux, elle ne croit pas. Mais Corée, je suis Perséphone maintenant, lui dit la jeune fille. Déméter la regarde mieux, quelque chose a changé. Qu'est-ce qui t'est arrivé aux enfers? Tu n'as rien mangé, dis-moi. Parce que Déméter connaît la règle, quiconque mange la nourriture des enfers doit y demeurer pour toujours. Oh non, enfin, presque rien, juste quelques pépins de grenade qu'Hadès m'a déposés sur les lèvres. Déméter devient pâle. Sa fille a mangé sa fille. Va-t-elle être retirée de nouveau? Non, ce n'est pas possible. Mais il n'y en a qu'un qui peut changer la loi du monde. C'est Zeus. Enlacé à Perséphone, Déméter s'envole pour l'Olympe. À côté de Zeus, il y a son frère, Hadès, qui est venu réclamer sa femme. Le dieu des dieux est bien embêté. Il caresse sa barbe, il farfouille dans son épaisse chevelure, il réfléchit. Si Perséphone reste aux enfers, ainsi que la loi l'exige, la terre va mourir, la terre deviendra un désert. Et s'il rend sa fille à Déméter, c'est Hadès qui va rentrer dans une fureur terrible. Zeus réfléchit, puis soudain un sourire éclaire son visage. Il a trouvé. Il relève la tête. Désormais, Perséphone passera la moitié de l'année sur terre avec toi, Déméter. et l'autre moitié sous terre avec toi, Hadès, comme reine des enfers. Quand elle sera avec sa mère, la terre se couvrira de fleurs et de fruits. Et quand elle redescendra chez les morts, la tristesse de Déméter fera naître le froid sur la terre. La terre deviendra froide et glacée, ainsi que l'exige la tristesse du cœur d'une mère. Personne ne discute les décisions de Zeus. À moitié satisfaits, Déméter et Hadès vont se contenter de ce compromis. Et depuis ce jour, la moitié de l'année, la nature est resplendissante, fertile. Au printemps, on accueille le retour de Perséphone parmi les vivants. La terre est fertile et épanouie. Dès qu'arrive l'automne, on pleure son départ. Et la terre devient froide, se recroqueville en attendant que Déméter se remette au travail. Depuis, les saisons se succèdent. Printemps, été, automne, hiver. Un temps pour vivre, printemps, été, et un temps pour mourir, automne et hiver. Poète, prends ton luth et me donne un baiser. La fleur de l'églantier sent ses bourgeons éclore. Le printemps naît ce soir, les vents vont s'embraser. Et la bergeronnette, en attendant l'aurore, au premier buisson vert commence à se poser. Poète, prends ton luth et me donne un baiser. Alfred de Musset. Maintenant, une histoire d'un autre style qui vient de Corse. C'est l'histoire d'un berger qui avait plus de boutons qu'il y a de grains de sable sur une plage. Malgré l'importance de son troupeau, malgré les innombrables animaux dont il était le maître, le berger avait toujours le cœur inquiet. Il ne supportait pas l'idée de perdre la moindre de ses bêtes. Et tout le temps, il était tourmenté à l'idée qu'un de ses moutons se perde, tombe dans un ravin, soit emporté par les frimas. Alors il suppliait les mois d'hiver de l'épargner. Descends, sois gentil, s'il te plaît, pas trop froid surtout, pas trop froid avec moi. Janvier, ne tue pas mes bêtes, je t'en supplie, par ton gel, non, Janvier, va geler ailleurs, mais pas chez moi, pas auprès de mes moutons. Février, si tu es bon avec moi, Février, je t'honorerai toujours. Et ainsi, le berger priait, suppliait, et moi, sensible à ses prières, épargnait son troupeau, et n'envoyait ni pluie ni grêle sur les brebis, et les brebis de ce berger continuaient à pâturer sans jamais attraper le moindre rhume. Mais voilà qu'arrive Mars. Mars, c'est un mois très capricieux, connu pour ses sauts d'humeur. Le moment le plus difficile de l'année pour le berger. Ah oui, il se fait tout petit, il prie Mars, il entoure ses brebis, il veille. Voilà, le dernier jour de Mars, on est au mois d'avril, le berger exulte, ça y est, il a passé ce mois terrible. Et il est tellement heureux qu'il se met à fanfaronner. Mars, Mars, ah, toi la terreur des troupeaux, eh ben tu es passé, ça va me faire du mal, et maintenant tu ne peux plus rien contre moi. Et le berger est tellement content qu'il se met à danser, et puis il baisse son pantalon et il montre la partie la plus charnue de son individu. Et Mars, va te faire voir ailleurs. Il se dit bien que l'année d'après, Mars aura oublié tout ça, parce qu'il est connu pour n'avoir pas grand-chose dans la tête. Seulement, Mars est horriblement vexé par l'attitude du berger. Il ne peut pas laisser passer ça. Il va voir son frère Avril, connu pour son bon caractère. Avril, viens à mon secours. Prête-moi 3 de tes jours pour que je châtie la démence de ce berger qui m'offense. Avril aime beaucoup son frère Mars, mais il lui prête volontiers 3 jours. Mars s'empresse de faire le tour de la terre et ramasse toutes les tempêtes qu'il trouve, et il envoie tout cela sur le troupeau de l'insolent berger. Le premier jour, ce sont les agneaux qui meurent. Le deuxième jour, les brebis, les moutons les plus faibles. Le troisième jour, tout le reste du troupeau. Le berger est épargné, mais il n'a plus que ses yeux pour pleurer. Alors, avant de défier le mois de mars, méfiez-vous. Sa vengeance peut être terrible. Ouais, c'est bientôt la fin. Il nous reste encore quelques jours à tenir. Une troisième histoire qui nous vient du pays amérindien. En ce temps-là, il n'y avait pas de saison. Il faisait toujours un temps moyen, ni froid, ni chaud, ni hiver, ni été. Voilà qu'un jour, le vent du nord s'est mis à souffler vers le sud. Il chassait devant lui le vieil homme hiver. Le vieil homme s'est arrêté sur les bords du grand lac. Enfin, il avait l'apparence d'un vieil homme parce que ses cheveux étaient longs et blonds. En fait, il était fort et robuste. Il avait seulement l'allure d'un vieillard. Le vieil homme hiver s'est arrêté là, au bord du grand lac, et patiemment, il a construit son hogan. Il faisait hurler le vent du nord autour de lui, le vent brisait les branches, il faisait tournoyer les feuilles dans un balai qui plaisait à l'homme hiver. Les murs du hogan ont été faits de glace. Il n'y avait pas de foyer et sur le sol, il n'a pas étendu des fourrures et des couvertures, mais de la neige bien tassée. Puis il a fait tomber la neige de partout pour qu'elle protège du vent les graines enfouies dans la terre. Les herbes et les insectes se sont engourdis dans le sol. Et vieil homme hiver a vécu ainsi pendant plusieurs lunes. Au début, il s'est amusé à faire changer le paysage, à tout recouvrir de neige, à accrocher des glaçons sur les branches, à faire taire les ruisseaux et les sources en les glaçant. Il a éloigné le soleil et les oiseaux sont partis avec lui. Les ours, il les a fait se réfugier dans leur tanière. Et la nuit, les loups affamés hurlaient à la lune. Les animaux qui osaient encore s'aventurer dehors avaient une fourrure épaisse qui a pris une couleur blanche, blanche comme la neige, ce qui leur permettait d'éviter les chasseurs puisqu'ils n'avaient plus les grandes herbes dans lesquelles ils avaient l'habitude de se cacher. Quand Hiver a eu fait tout cela, quand elle a eu construit sa maison, recouvert le paysage de blancs tapis, glacé les cours d'eau, accroché des glaçons sur les branches, il n'y avait plus rien à faire et il a commencé à s'ennuyer. Un jour, à la tombée de la nuit, il se tenait devant son hogan, il regardait vers le sud et il a vu quelqu'un apparaître. C'était une jeune fille. Une jeune fille qui avait de longs cheveux noirs, plus noirs que le noir du corbeau. Ses yeux brillaient de l'éclat des étoiles et ses joues avaient le rose délicat des pétales d'églantine. Elle portait des vêtements d'un vert tendre. Et au pied, elle avait des mocassins brodés de vives couleurs. Sous ses pas, la neige ne crissait pas, elle fondait. Mais le vieil homme hiver ne s'en est pas rendu compte, tellement il était ébloui par la beauté de cette jeune fille. Et tout heureux, il lui a dit, « Étrangère, je ne sais pas d'où tu viens, mais tu es bienvenue chez moi. Il ne fait pas très chaud dans ma maison, mais tu seras à l'abri des bêtes sauvages qui rôdent pendant la nuit. » « Viens, entre et tu me parleras de ton pays, tes vêtements sont si étranges. » La jeune fille est entrée en souriant. Elle s'est assise sur l'épais tapis de neige. Hiver a pris deux pipes, les a remplies de tabac, il en a tendu une à la jeune fille, et ensemble, ils ont fumé en silence. Puis, le vieil homme a commencé à parler. Il a dit « Moi, quand je soupire, les eaux des sources et des rivières se changent en glace. » Moi, quand je respire, dit la jeune fille d'une voix douce, sources et rivières jaillissent et coulent. Il suffit que je fasse un signe et la neige vient couvrir la terre autour de moi. Moi, je fais un signe et c'est une pluie douce qui tombe des nuages. Quand je marche, dit le vieil homme, la sève s'arrête dans les arbres. J'ordonne aux animaux de se cacher, j'ai fait fuir le soleil et tous les oiseaux. Et les animaux se cachent dans leurs trous. Quand je marche, dit la jeune fille, les bourgeons apparaissent sur les branches, les plantes lèvent la tête et les animaux sortent de leur terrier et le soleil revient. Ils ont parlé comme ça toute la nuit. Hiver était envoûté par la grâce de sa nouvelle compagne et il ne sentait pas la chaleur qui émanait d'elle comme il n'était pas habitué à la chaleur, ça l'a engourdi et au bout d'un moment, il s'est endormi. Alors la jeune fille s'est levée. Elle est allée à la porte, elle a fait signe au soleil, le soleil qui était parti loin mais qui n'attendait qu'une occasion pour revenir. Aussitôt, il est arrivé avec tous les oiseaux derrière lui. La jeune fille a fait un autre signe et les rivières se sont remises à couler. Elles ont appelé les oiseaux, elles leur ont dit « Venez, venez, notre eau est fraîche, venez vous rafraîchir. » Et la terre a murmuré aux graines « Il est temps de sortir les petites, vous pouvez y aller. » Les jeunes pousses ont osé pointer leur nez, elles ont souri au soleil. Le vieillard continuait de dormir. La jeune fille s'est approchée de lui, elle a caressé du bout des doigts ses longs cheveux blancs. Et à mesure qu'elle les caressait, le vieil homme rapetissait. Il devenait de plus en plus petit. Les murs de la maison s'écroulaient. Les tapis de neige fondaient. Quand l'hiver n'a plus été qu'un tout petit être qui tenait dans la main la jeune fille, elle a appelé Vent du Sud. Elle lui a dit « Vent du Sud, emporte-le dans son pays. Souffle vers le nord. » Quand il arrivera chez lui, il aura retrouvé sa force et sa vigueur, et il pourra revenir l'année prochaine. Vent du Sud a soufflé et il a poussé, hiver posé sur un nuage, et il a poussé vers le nord. La jeune fille s'est mise au travail. Et son souffle a réchauffé l'air, il a fait éclore les bourgeons, et les animaux ont quitté leur terrier, et toute la nature était gaie et heureuse. Le printemps était là.
Au bord de l'eau, un pigeon défunt. Pour un oiseau, mais quelle drôle de fin. Sur la plage, échoue sans cesse, jeté par les vagues. Échoue sans cesse, là-bas. À présent, l'orage dort sous la grève. Tout corps et tout. Le sable s'élève, puis c'est l'oiseau foudroyé dans le creux de mes pas reposé. Viens là, le soleil perce l'oiseau rayé de ses raides et doux rayons comme des aiguilles et une poupée vautou. Le soleil perce l'oiseau rayé de ses raides et doux. Rayons comme des aiguilles, une poupée vautour. Arrive-t-il d'un pays lointain? Se vola-t-il au regard éteint? Moi je crois revenu, apeuré et nu, du fond de ma mémoire rétive. Alors du je remonte le cours jusqu'à l'impasse où gisent mes amours, espérant trouver des plumes, un souvenir de plus du pauvre oiseau reconnu. Le soleil perce l'oiseau gris de ses rêves et doux rayons comme des aigus une poupée vaudou. Le soleil perce l'oiseau gris de ses rêves et doux rayons comme des aigus une poupée vaudou. Rien que je te mette à bruit des longs doigts lumineux de l'astre enfantin qui appuie sur le plaid de tes yeux. Rien que je te mette à l'abri des longs doigts lumineux de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux. Pigeon de mon cœur, pigeon de mon cœur, pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords, infatigable oiseau moqueur, cœur.
Feu Chatterton, l'oiseau, pour notre pause musicale. Nous allons rester au pays amérindien pour le faiseur d'été. En ce temps-là, un hiver perpétuel régnait sur le pays indien. Sur les côtes sud du lac supérieur vivait un illustre chasseur nommé Ojig Anong. Il vivait dans un endroit complètement isolé et sauvage avec sa femme et son fils de 12 ans qu'il aimait tendrement tous les deux. Ojig était surnommé la Belette. Du nom de ce petit animal éveillé et très aimé des Indiens. Très commun, enfin très répandu en tout cas dans la région. Le chasseur revenait et ne revenait jamais bredouille de ses chasses et sa femme et son fils étaient bien nourris. Le fils, dès qu'il a eu assez de force pour tenir un arc dans ses mains, a voulu imiter son père, qui était un si grand chasseur, et lui aussi essayait de tirer sur les oiseaux, sur les petits animaux. Seulement, il faisait froid, il faisait tellement froid que le gel lui gelait les mains et souvent il revenait bredouille de ses chasses. La neige était toujours épaisse, le vent glacé. Il n'en pouvait plus de ce froid. Un jour où il avait vainement battu la forêt, il allait rentrer à la maison triste et dépité quand il a vu sur une branche un petit écureuil rond. À pas de loup, le garçon s'est approché de l'écureuil jusqu'à être à bonne portée d'arc. Il allait bander son arc, l'écureuil s'est assis sur son arrière-train et lui a parlé. Il lui a dit « Pose donc tes flèches et écoute-moi. » Contre-cœur, le garçon a fait ce que l'écureuil lui demandait. Il lui a dit « Écoute, voilà, si tu suis mes conseils, la belle saison viendra. Je te vois souvent arpenter la forêt, triste et contrarié parce que tu n'as rien réussi à chasser, tes doigts ont été gelés par le froid. Et écoute-moi bien. Tu vas rentrer chez toi et là, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps, tu vas jeter tes armes, ta mère te demandera ce que tu as, tu ne réponds pas, elle te proposera de la nourriture, tu la jetteras loin avec colère, attends le retour de ton père. Lorsqu'il arrivera, il demandera ce que tu as et ta mère dira qu'elle ne sait pas, qu'il n'a rien voulu dire. Alors ton père te questionnera et là, dis-lui que tu es triste de voir cette neige perpétuelle qui t'empêche de chasser et demande-lui s'il peut arriver à la faire fondre et à faire venir la belle saison. Ton père répondra que ça lui sera très difficile et que par amour pour toi, il essaiera et qu'il sera prêt à donner sa vie pour répondre à cette promesse. En échange, il te demandera de sécher tes larmes et de retrouver le calme. Alors, il utilisera tous ses pouvoirs pour aller chercher cette belle saison. Et s'il réussit, eh bien, toi, tu réussiras à chasser. Et moi, je pourrai faire des provisions parce que bientôt, je vais mourir de faim. L'astucieux animal s'est tué. Et le garçon l'a remercié. Il lui a promis de faire tout ce qu'il lui avait dit. Et effectivement, une fois rentré à la maison, il a suivi les conseils de l'écureuil. Tout s'est passé comme l'animal l'avait annoncé, jusqu'à ce que Ojig rentre de la chasse et demande à sa femme qu'est-ce qui était arrivé au garçon. Elle a dit « Mais je ne sais pas, il est rentré dans cet état-là, il n'a rien voulu me dire. » Le chasseur a questionné son fils qui lui a dit « Moi, il me faut le beau temps, il faut la saison chaude, sinon je vais mourir de froid et je n'arrive à rien faire. » « Très bien, » a dit Jill, « je te promets que je vais faire tout mon possible pour t'amener la belle saison. Mais ce ne sera pas facile. Peut-être même cela me coûtera la vie. » Le chasseur a commencé par donner une grande fête où il a invité quelques-uns de ses amis, ceux qu'il voulait emmener en voyage avec lui. Il y avait la loutre, le castor, le lynx, le blaireau et le glouton. Ojig a fait rôtir un ours entier pour les nourrir. Quand tout le monde a été bien rassasié, ils se sont concertés sur les dispositions à prendre pour le voyage. Le départ devait avoir lieu 3 jours plus tard. Le matin du départ, Odjig la belette a pris congé de sa femme et de son fils, comme s'il devait ne jamais les revoir. Ses compagnons et lui ont cheminé pendant 20 jours. Ils ont marché en direction d'une haute montagne. Quand ils sont arrivés près de la montagne, ils ont aperçu sur la neige des traces de sang et des traces d'un chasseur. Le sang avait coulé sur la neige et Odjig et sa troupe ont suivi la piste jusqu'à une maison qui était cachée au flanc de la montagne. Et devant la maison, il y avait un être très étrange. Il avait une tête énorme avec des dents très longues. Il n'avait pas de bras. Le chasseur s'est demandé comment il faisait pour attraper ses proies. Mais c'était un esprit très puissant. Il les a conviés à demeurer chez lui pour la nuit. Et la troupe de Jig a accepté. Ils cuisaient de la viande dans une marmite en bois. Et ils leur expliquaient que pour tuer ses proies, ils se jetaient sur elles et ils les étouffaient. Ensuite, il a partagé la viande avec ses dents. Et chacun a mangé et à suffisance. Il leur a demandé qu'est-ce qu'ils venaient faire là et... Il leur a prédit que le chasseur réussirait sa quête, mais que ce serait au prix de sa vie. Puis il leur a donné des conseils, il leur a expliqué que le lendemain, il devait aller escalader la plus haute montagne, dont le sommet se perdait dans les nuages. Et le lendemain matin, ils ont pris congé de cet être bizarre, et ils ont marché. Ils ont escaladé la montagne, qui était vraiment très haute, toute couverte de neige. Une fois parvenus au sommet, enfin, ils se sont accordés un temps de repos. Ils ont bourré leurs pipes, ils ont fait des offrandes dans les quatre directions, puis vers le ciel, et ils ont fumé, ils ont demandé au grand esprit d'exaucer leurs vœux. Le ciel leur paraissait tellement proche, la montagne était si haute que son sommet touchait presque la voûte céleste. Quand ils ont eu tiré la dernière bouffée de leur pipe, et ils ont posé, et Odjig a prié la loutre de tenter la première de faire un trou dans le ciel. Elle a accepté. Elle a pris son élan, elle a sauté, mais son saut n'a pas été assez grand. Elle est retombée sur la pente de neige et elle a glissé jusqu'en bas de la montagne. Dépitée, elle a décidé de rentrer chez elle. Ensuite, Castor a essayé, et puis Lynx, et puis Blaireau. Et tous les trois, ils ont échoué, et comme la loutre, ils se sont retrouvés en bas de la montagne. Ils n'avaient plus qu'à rentrer chez eux. Au sommet, il n'était plus que deux maintenant. Il y avait Glouton et il y avait Odjig. Maintenant, a dit la belette au Glouton, essaye. Tes ancêtres étaient célèbres pour leur adresse et leur opiniâtreté. Le succès dépend de toi. Glouton a sauté une fois, puis il est retombé au sommet de la montagne, mais c'est comme si ça lui avait donné de l'élan pour rebondir et sauter une deuxième fois encore plus haut. Mais ce n'était pas encore assez suffisant, il est retombé une troisième fois, il a sauté, et cette fois, il a sauté tellement haut qu'il a percé la voûte céleste et s'est retrouvé dans le monde du dessus, avec Odjig qui s'était accroché à sa jambe. Ils se sont retrouvés dans une immense prairie, couverte de fleurs de mille couleurs et aux parfums délicieux. Il y avait de grands arbres qui dispensaient une ombre très agréable, et entre les forêts coulaient des rivières qui formaient des lacs où jouaient les rayons du soleil. C'était le pays de l'éternel beau temps. Odjig et Glouton n'avaient jamais senti la caresse du soleil sur leur visage. Ils n'avaient jamais vu des prairies remplies de fleurs. Ils étaient émerveillés par tout ce qu'ils voyaient, tout ce qu'ils respiraient, les papillons qui dansaient. Ils ont aperçu les habitants de ce céleste pays qui étaient occupés à des jeux amusants. Tout était harmonieux, charmant. Glouton était complètement dans l'émerveillement. Il allait de ci, de là, respirant les fleurs. Mais Odjig, lui, restait concentré sur sa quête. Il se rappelait de la promesse qu'il avait faite à son fils. Et soudain, il aperçut des cages. des cages de toute taille qui étaient pleines d'oiseaux différents. Et les oiseaux chantaient, il a compris que c'était là le secret du beau temps. Il a pensé à son fils, il a rassemblé ses forces et il a commencé à ouvrir les cages. Les unes après les autres, les oiseaux se sont échappés et les vents chauds du pays du beau temps sont partis à leur suite et ils se sont engouffrés dans l'ouverture qu'ils avaient faite dans le ciel pour gagner le pays indien et en chasser l'hiver. Quand les habitants du ciel ont vu les oiseaux qui s'enfuyaient et tout leur vent doux et chaud qui les abandonnait, ils se sont poussés à un cri terrible. Aussitôt, Glouton, lui aussi, s'est enfui par le trou du ciel, mais Ojig a continué sa mission, il a continué à ouvrir les cages les unes après les autres. Et les habitants du ciel ont recousu le plus vite qu'ils ont pu les trous qui s'étaient formés dans le grand drap bleu du ciel, qui était plein d'accrocs. Et Ojig, lui, s'est dépêché, il ouvrait la dernière cage quand les archers du pays du beau temps l'ont pris en chasse. Alors il s'est transformé en belette, il a couru, il a grimpé en haut d'un arbre énorme et les flèches pleuvaient autour de lui, mais Ojik, la belette, était presque invulnérable. Presque. Parce que à la naissance de la queue, il avait une zone où les flèches pouvaient l'atteindre. Et il se trouve qu'à la tombée de la nuit, il y a une flèche qui est justement venue l'atteindre dans cette région-là. Son sang s'est mis à couler. Il savait que sa mort était proche. À la nuit tombée, les poursuivants sont partis. La belette est descendue péniblement de son arbre avec la blessure béante qu'il portait à la queue. Il a cherché dans l'immense prairie s'il n'y aurait pas une ouverture oubliée par laquelle il pourrait se glisser sur la terre. Mais tout avait été soigneusement recousu. Au pays du beau temps, il ne restait plus qu'un petit zéphyr qui n'avait pas réussi à s'échapper. Ojig s'est dit, eh bien, je meurs, mais je meurs heureux puisque j'ai tenu ma parole. Et désormais, je serai pour ceux d'en bas, dans les temps à venir, celui qui leur a donné 8 à 10 lunes de saison douce et chaude chaque année. Et aujourd'hui encore, après si longtemps, on peut voir Ojig, la belette, apparaître lorsque la nuit tombe sur la terre du Nord. Ojig est devenue la constellation de la belette. Elle a la forme d'une belette, avec une flèche fichée dans sa queue. C'est la constellation que les Blancs appellent le chariot. Et pour terminer, évoquons l'été avec un poème d'Arthur Rimbaud. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature heureux, comme avec une femme. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne les références de nos contes. Déméter et Perséphone, la naissance des saisons. Hymne à Déméter de Homère, traduit par Le Comte de Lille. Et La naissance des saisons, un album de Chiara Lossani, Octavia Monaco, édité chez Grasset. Mais il y a d'autres versions de cette histoire, bien sûr. Mars et le berger, qui est un conte corse, mais qui est relaté dans les contes italiens d'Italo Calvino. Comment le printemps est arrivé sur Terre, c'est une histoire que j'ai trouvée dans un blog de la culture amérindienne. Ojig la belette, légende des Indiens, Henry Rove Schulcraft, édité par Grund. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis au mois prochain pour de nouvelles histoires. Mais qu'est-ce qu'elle raconte sur Radio Saint-Ferréol 94.2, l'émission qui compte, avec Pierre à la technique, Sophie au micro. Le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h.